Ce soir, j'aimerais vous donner quelques pensées sur un besoin fondamental du cœur de l'homme. Ce message nous aidera à commencer une bonne année. Non seulement à commencer une bonne année, mais aussi à finir l'année dans de bonnes conditions. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent bien, mais qui finissent mal, n'est-ce pas vrai? Beaucoup se sont amusés au début de cette année. Ils sont encore sous l'euphorie de la boisson, de la musique, des danses. Mais bientôt, cette joie éphémère et superficielle va disparaître. Et l'homme sera encore à nouveau noyé sous un sentiment de culpabilité. Le problème qui détruit l'homme moderne aujourd'hui, ou j'allais dire le mal qui détruit l'homme d'aujourd'hui, est ce problème de culpabilité. Qu'on veuille l'accepter ou pas, l'homme est sous un poids de culpabilité. Je ne vous connais pas, mais je sais que tous, d'une manière ou d'une autre, si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus, nous sommes sous un poids de culpabilité. Et ce poids peut être terrible. Alors, l'Évangile a un remède à ce mal terrible et incurable. Comment donc être délivré de cet esprit de culpabilité? Comment en être délivré? C'est ce que nous allons voir. Dieu soit béni, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Le croyez-vous? Comment être délivré de cet esprit de culpabilité? Et dans l'Ancien Testament, nous allons prendre l'exemple d'un grand roi qui a été un grand pécheur. Et on a dit de lui qu'il était le plus grand saint et le plus grand pécheur de l'Ancien Testament. Je crois que j'en ai dit assez maintenant pour que vous sachiez qui est-ce. Qui est-ce? Le roi David. Vous l'avez trouvé. David a été un grand saint dans l'Ancien Testament, mais il ne l'a pas toujours été. Il est passé aussi par de grandes souffrances. Il a été un homme comme chacun d'entre nous, et il a goûté à cette coupe amère de la culpabilité. Et nous allons lire quelques versets dans un psaume, le psaume 32. Et les 7 premiers versets, nous allons voir les sentiments qui étaient dans le cœur de David à cause de cette culpabilité qui était en lui. Et nous allons voir aussi comment Dieu l'en a délivré. Car notre Dieu est venu pour délivrer ceux qui sont sous ce poids-là. Psaume 32. Les 7 premiers versets, s'il vous plaît, écoutons attentivement cette parole de Dieu, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Que Dieu bénisse sa parole. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pour que David puisse dire cela, alors c'est qu'il s'est passé quelque chose de profond en lui, n'est-ce pas vrai? Et voilà ce que Dieu veut accomplir dans nos vies dès le début de cette année. Nous entourer de chants de délivrance. Avez-vous un chant de délivrance adressé à notre Dieu? Ou alors es-tu encore sous cette culpabilité? Vous le voyez et vous l'avez entendu, David disait lui-même, « Tant que je me suis tu, qu'est-ce qui s'est passé? Tous mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Autrement dit, David faisait, comme on le dit aujourd'hui, une dépression. Quand quelqu'un gémit toute la journée, c'est quelqu'un qui fait une dépression. Et c'est un peu la maladie de notre siècle, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que beaucoup de personnes font des dépressions? Ne serait-ce pas parce que ces personnes se trouvent sous un sentiment de culpabilité? Bien sûr, il peut y avoir d'autres causes. Mais peut-être que la cause principale est celle-ci. Comment être délivré de ce sentiment de culpabilité? Nous verrons comment David a été délivré. Nous verrons comment la méthode divine a délivré cet homme et peut vous délivrer. Mais avant de vous donner la méthode divine, j'aimerais vous donner d'autres méthodes qui existent dans ce monde pour délivrer l'homme de sa culpabilité. Car bien sûr, c'est un problème pour l'homme, cette culpabilité. Des hommes dépensent des milliers, des millions de francs. Psychologues, psychiatres et tous ceux qui sont engagés dans cette course, dans cette recherche de délivrance de l'homme, de ses fardeaux et de ses problèmes. Alors la première méthode qui cherche à délivrer l'homme de cette culpabilité, c'est la méthode de la sagesse humaine. Car l'homme cherche à délivrer l'homme de sa culpabilité. Et comment l'homme s'y prend? Comment la sagesse humaine? Comment la philosophie humaine? Comment la psychologie humaine s'y prend pour délivrer l'homme de cette culpabilité? En peu de mots, vous savez ce qu'on peut dire. Ça se résume à cela. Voilà ce que la philosophie nous dit, d'une manière générale, ou la sagesse humaine. Le péché n'existe pas. Puisque le péché n'existe pas, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu te culpabilises quand il n'y a pas à se culpabiliser? Si tu te culpabilises, c'est à cause de ton péché. Et si le péché n'existe pas, tu n'as pas à te culpabiliser. N'est-ce pas ce qu'on entend? Et même certaines de ces personnes, que je respecte d'ailleurs, ces psychologues et psychiatres, je ne suis pas contre eux, ils peuvent faire du bien. Mais malheureusement, certaines de ces personnes, elles-mêmes sont contre Dieu. Moi, je ne suis pas contre eux, mais eux-mêmes sont contre Dieu. Et lorsque quelqu'un est contre Dieu, alors il a perdu d'avance, n'est-ce pas vrai? Même si cette sagesse apparemment est une sagesse enviable. Alors voilà la solution des hommes. Mais mon ami, ne te casse pas la tête. Tu dis que tu as péché. Qu'est-ce qu'il dirait au roi David si ces hommes existaient de son temps? Mais mon roi David, tu as commis adultère, mais c'est pas grave, voyons. Un roi comme toi, mais tu peux en avoir une vingtaine de femmes. Chaque soir, tu peux aller t'amuser. Tu es roi, voyons. Tu dois bien un peu te laisser aller. C'est normal. Et d'ailleurs, si tu ne le fais pas, tu risques d'être anormal. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est celui qui pêche qui est un, c'est celui qui pêche qui est normal, et celui qui ne pêche pas qui est anormal, n'est-ce pas vrai? Si vous dites à ceux qui sont dans la rue, mais vous savez, mais moi je suis fidèle à ma femme, comment toi fidèle à ta femme? Vraiment, tu n'as pas d'autre aventure? Mais il y a quelque chose qui ne joue pas avec toi. Mais ça va pas, toi? C'est bien ce qu'on dit aujourd'hui. Celui qui cherche à faire le bien, il est considéré comme un vaurien. Et celui qui fait le mal, qui fait tous les 100 coups, il est considéré comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui est dans le vent. Oui, il est dans le vent et bientôt il sera dans la tempête aussi. N'est-ce pas vrai, chers amis? Peut-être qu'on vous a dit aussi cela. Lorsque vous avez vous-même goûté au sentiment de culpabilité, on vous a dit, mais c'est rien du tout, mon ami. Va boire un petit coup, ça passe pas. Va faire un petit peu d'écart, tu verras que ça passera aussi. Va te divertir un peu et ça passera, ces choses n'existent pas. Le péché n'existe pas, tu n'as pas à te culpabiliser. Et ces personnes, malheureusement, ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et combien il peut faire du mal et un mal terrible. Car même si l'on nous dit que le péché n'existe pas et que nous n'avons pas besoin de nous culpabiliser parce que nous avons fait une faute, nous savons qu'au fond de nous-mêmes, notre conscience nous reprend, n'est-ce pas vrai? Car il y a une vérité que nous devons tous savoir. C'est une loi spirituelle qui s'applique aussi bien pour les chrétiens que pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Quelle est cette loi spirituelle? Que tout péché commis dans notre vie produit un sentiment de culpabilité. Je répète ce que je dis, ceci est très important. Tout péché commis, aussi bien par un chrétien que par un non-chrétien, produit un sentiment de culpabilité. Nous ne pouvons pas échapper à cela. C'est pourquoi notre conscience nous reproche constamment quelque chose. Et nous ne pouvons pas dire à quelqu'un, tu as péché, ce n'est rien du tout. Mais le péché produit ce sentiment de culpabilité. Et vous savez, ça peut aller très loin s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de remède. Et que produit la culpabilité? La culpabilité engendre le mensonge. Une fois que nous nous sentons coupables, une fois que nous savons que nous avons mal fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à mentir pour cacher notre culpabilité. Et nous mentons de différentes façons. Est-ce que tu as fait ça? Oh, pas du tout, mais voyons. Pour qui tu me prends? Moi, faire quelque chose comme ça? C'est pas vrai. Le péché engendre la culpabilité, le mensonge. Et le mensonge engendre autre chose maintenant. Le mensonge engendre la solitude. Lorsque vous commencez à mentir, alors, vous commencez à réaliser votre solitude. Vous n'avez plus de contact avec les autres. Vous commencez à être prisonnier de votre solitude. La solitude engendre autre chose. La solitude engendre la dépression. La dépression engendre la jalousie. Parce que nous, lorsque nous sommes dans la dépression et que nous voyons les autres contents, ça commence à... Comment? C'est pas normal. C'est pas normal que l'autre soit content alors que moi je ne suis pas content. Nous commençons un peu à jalouser les autres. Et vous savez ce que la jalousie produit? La jalousie produit la haine. Non seulement nous jalousons les autres, mais nous commençons à les haïr en disant « ce n'est pas normal qu'ils soient heureux alors que moi je suis dans cet état-là ». Et nous en arrivons jusqu'à la haine. Et la haine, quand elle est consommée, engendre bien souvent le suicide. Nous en arrivons à un tel point où nous ne pouvons plus nous supporter et supporter les autres. Le fardeau est tellement grand que nous n'en pouvons plus. Et nous disons, puisque personne ne peut ôter ce fardeau qui est sur moi, je me suicide et je pense que tout cela sera terminé. Ne pensez pas que le pourcentage de ceux qui se suicident se trouve surtout parmi les personnes âgées. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de jeunes qui se suicident. Il ne faut pas attendre l'âge avancé pour réaliser ce sentiment de culpabilité. Les jeunes déjà expérimentent cela et ne trouvant pas de solution auprès de la sagesse humaine, ils en arrivent à l'acte ultime de destruction de soi-même. Ça, c'est la méthode de la sagesse humaine. Il n'y a pas de solution. Alors, dans ce monde, il y a encore une autre méthode. Vous savez laquelle est cette fois ? C'est la méthode de la religion humaine. Alors cette fois, si on ne peut pas trouver une solution dans la sagesse de l'homme, nous allons essayer de trouver une réponse dans la religion de l'homme. Et beaucoup essayent, dans la religion, de se libérer de ce sentiment de culpabilité. Et vous savez comment résonne, en peu de mots, la religion ? Et quelle que soit la religion, d'une façon générale, vous savez, d'une manière générale, toutes les religions ont le même raisonnement ou le même principe. Que dit la religion ? La religion, elle dit ceci, le péché existe. Vous voyez, la sagesse humaine dit, le péché n'existe pas. Mais là, c'est le contraire. Oui, 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 le péché existe, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. C'est une personne qui, véritablement, se sent coupable. Le péché existe, mais... Alors, c'est là qu'il faut bien faire attention. Le péché existe, mais tu peux effacer ton péché toi-même. Par tes larmes, par tes prières, par tes bonnes œuvres, par ta religion, par tes petits sous-sous, par ton honnêteté, tu peux effacer ton péché. Voilà la solution de la religion. Et combien de personnes essayent de se libérer de leur culpabilité de cette manière-là ? Combien ? Il y a des milliers, des millions de personnes qui pensent trouver la libération de leur culpabilité dans leur religion, ou dans leurs bonnes œuvres, leur honnêteté, leur souffrance aussi. Combien de fois nous l'entendons ? Oh monsieur, cette personne a tant souffert dans sa vie. Si elle n'est pas sauvée, alors personne ne sera sauvé. Oh, vous savez, si cette personne a souffert, je ne veux pas manquer de respect à l'égard de cette personne. C'est possible qu'elle ait souffert. Mais ce ne sont pas ses souffrances qui sauvent cette personne. Vous êtes d'accord avec moi ? Ceci est quelque chose de très important. La parole de Dieu nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Avez-vous remarqué ? Afin que personne ne se glorifie. Personne devant Dieu ne pourra dire un jour, « Oh Seigneur, tu vois, regarde-moi un petit peu de près, prends-moi en photo, Seigneur. Regarde un peu qui je suis. À priva, j'ai l'impression que je suis bien là. Je suis bien dans les 10 premiers, en tout cas. Dans les 10 premières personnes sympathiques, gentilles et les meilleures, quoi, finalement. Seigneur, regarde-moi bien, parce que j'ai l'impression que j'arrive dans les 10 premiers, si ce n'est dans les 5 premiers. Et nous sommes devant le Seigneur en train de nous vanter, en disant, Seigneur, tu vois, regarde comme je prie, oh là là, mais Dieu, Seigneur, mais ma façon de prier devrait vraiment te toucher le cœur. À cause de tout cela, Seigneur, certainement, je serai sauvé et mon péché sera effacé. Mais cette méthode fait de nous des personnes orgueilleuses, afin que personne ne se glorifie. Vous pensez que si les gens étaient sauvés de cette manière, le ciel serait rempli d'orgueilleux. Chacun se vantant de lui-même. « Oh Seigneur, voilà ce que j'ai fait. » Et la liste serait longue, n'est-ce pas ? « Afin que personne ne se glorifie D'une manière générale, la méthode de la religion humaine, loin de délivrer l'homme de sa culpabilité, garde l'homme dans sa culpabilité et en plus de cela lui donne une autre maladie encore. Non seulement il garde sa maladie, mais il en attrape une autre. C'est l'orgueil spirituel. Vous ne pouvez pas parler à une personne religieuse. Elle se croit supérieure aux autres. Moi j'ai une religion, toi t'es un païen. Mais tu devrais croire en Dieu au moins, toi. Et on se croit supérieur. Et on est des orgueilleux. Et il y a une troisième maladie aussi qui arrive, c'est l'hypocrisie. Ces gens-là, très souvent, sont hypocrites. Et Jésus l'a bien dit, n'est-ce pas, à ces gens religieux qui veulent paraître justes devant les hommes, mais leur cœur est désespérément mauvais et méchant. Nous ne paraissons que justes devant les hommes, mais devant Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre cœur est mauvais. Alors la religion, quelle qu'elle soit, ne peut délivrer l'homme de sa culpabilité. Alors quelle est la méthode qui délivre l'homme de cette culpabilité? C'est la méthode divine. La méthode de l'Évangile. Vous auriez pu dire Alléluia là un petit peu. La méthode de l'Évangile. Et c'est cette méthode-là qui libère l'homme de sa culpabilité jusqu'aux racines. Et comment David lui-même a-t-il été délivré? Tant que je me suis tu, tous mes os se consumaient. Vous le voyez, tant qu'on se tait, tant qu'on ne dit pas, qu'on ne confesse pas notre péché, nous sommes même atteints physiquement. Même notre corps en reçoit les contre-coups. Nous ne pouvons supporter cet état de péché en nous. Car l'homme n'a pas été créé pour vivre comme cela. Tant que je me suis tu, David ne dormait plus ni le jour ni la nuit. Il était pourtant roi, mais il ne pouvait pas dormir. Alors il a fallu qu'il en arrive à ce point-là. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. À un moment donné, nous devons avoir le courage de dire à notre Dieu, « Oh mon Dieu, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne veux rien garder en moi. L'abcès est en moi. » Et l'abcès n'a pas besoin d'un pansement, l'abcès a besoin d'une incision. L'incision fait toujours mal. La confession, la repentance fait mal. Ce sont des termes que l'on n'aime pas entendre aujourd'hui. Mais j'ai lu une fois que certains psychiatres aux USA commencent à faire ces déclarations. Si les pasteurs ne veulent plus prêcher la repentance, alors nous les psychiatres, nous allons commencer à prêcher la repentance aux hommes. Tellement ils réalisent que l'homme a besoin de se repentir, que l'homme a besoin de confesser son péché, et que s'il garde son péché, il se détruit lui-même. Je lisais aussi un jour ceci, concernant une maison psychiatrique. Le directeur, parlant de ses malades, disait dans son livre, « Si je pouvais dire à tous mes malades dans cette maison psychiatrique, vous êtes pardonnés, il disait ceci, 50% de ces malades sortiraient de cet hôpital. Simplement cette parole, vous êtes pardonné. Ce qui veut dire que la moitié de ces malades sont sous un poids de culpabilité. Ils sont littéralement écrasés, c'est quelque chose de sérieux, n'est-ce pas vrai? Qui peut conduire quelqu'un jusqu'à la folie, au dérangement mental et au suicide. Et à toutes sortes de désordres sexuels. Le besoin de l'homme, ton besoin peut-être ce soir est celui-ci, de confesser ton péché. Bien sûr, tu n'as pas besoin de confesser ton péché à un homme. C'est pour ça peut-être que tu le gardes en toi. C'est pour cela que tu as honte peut-être de le dire. Et c'est normal. Moi, je n'aurais pas voulu confesser mon péché à des hommes. Mais Dieu nous dit de confesser notre péché à lui. La parole de Dieu nous dit, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Mais il faut avoir du courage. David, c'était un roi et cependant, il était courageux. Il aurait pu dire comment je suis roi, moi non, c'est pas... Il faut que je pense à ma réputation. Si tu veux garder ta réputation, tu risques de perdre ta vie. J'ai dit, j'avouerai mon péché à l'Éternel. Le premier pas vers la délivrance de ce sentiment de culpabilité vient lorsque nous confessons notre péché. Alléluia. Et personnellement, c'était ce besoin qu'il y avait au fond de moi-même lorsque je suis venu à Jésus. J'avais 20 ans lorsque je l'ai fait, mais dans le fond de moi-même, je réalisais que j'avais besoin d'être pardonné. J'avais besoin de dire au Seigneur, j'ai péché. Je suis souillé, j'ai péché, pardonne-moi. Et je suis sûr que ce sentiment est au fond de toi-même et que tu as besoin de te vider d'une manière ou d'une autre. Sinon, tu risques de gâcher toute ta vie alors que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Si tu confesses ton péché aux hommes, on risque de te rejeter. Mais si tu les confesses à Jésus, loin d'être rejeté, il t'acceptera. Il te pardonnera, il te relèvera et il t'enverra en nouveauté de vie pour annoncer aux autres le salut et le pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le message de la délivrance qui va en profondeur. Mais la délivrance est pour ceux qui sont courageux. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous avez honte de moi devant les hommes, alors j'aurai honte de vous devant mon Père qui est dans les cieux. Nous ne devons pas avoir peur, ni honte de confesser notre péché. Venons à lui tel que nous sommes ce soir. C'est le premier pas, la confession. Le deuxième pas vers la délivrance maintenant, c'est l'abandon du péché. Car David n'a pas seulement confessé son péché, mais il l'a aussi abandonné. Changement au fond de lui-même, et il n'a plus recommencé. La parole de Dieu nous dit, dans les Proverbes, 28, 13, nous dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Cacher nos transgressions nous empêche de prospérer, mais les avouer et les abandonner nous accorde le pardon de Dieu. Alléluia. Le deuxième pas est celui-ci, l'abandon du péché. Pourquoi est-ce que nous abandonnons le péché? Pourquoi est-ce que nous devons haïr le péché? Parce que le péché, c'est un ennemi. C'est un ennemi qui vous fait du mal. C'est un ennemi qui vous détruit le péché. Oh, il y a toujours... au départ, un certain plaisir dans le péché. Sinon, on ne commettrait pas de péché, n'est-ce pas vrai? Bien sûr, il y a un certain plaisir dans le péché, mais les conséquences du péché sont douloureuses, tragiques. C'est pourquoi le péché est un ennemi qui nous détruit. Mais plus que cela, le péché n'est pas premièrement contre nous-mêmes, le péché est premièrement contre Dieu lui-même. C'est pourquoi David en est arrivé à ce point-là. Dans le psaume 51, vous savez ce qu'il dit? J'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Comment, David ? Contre toi et contre toi seul. Tu as péché contre cette femme. Tu as péché contre son mari aussi. Tu as péché contre toi-même. C'est vrai. Il avait fait tous ses péchés. Mais il a compris une chose que nous devons tous comprendre. C'est que premièrement, le péché est contre Dieu. C'est Dieu lui-même qui a été offensé. C'est Dieu lui-même qui a été attristé. Et lorsque nous comprenons et saisissons cette pensée que notre vie de rébellion et de péché attriste le cœur de Dieu, alors et alors seulement, nous acceptons de changer de vie et de ne plus attrister notre Père Céleste. Alléluia. Lorsque nous savons que notre vie de péché attriste un de nos bien-aimés, qu'est-ce que vous faites? Parce que je t'aime, alors je vais changer ma façon de vivre maintenant. Puisque ce que je fais t'attriste, par amour pour toi, j'abandonne ce que je fais de mal. Il en est de même avec le Seigneur. Quand nous savons que ce que nous faisons attriste son cœur, alors nous changeons notre façon de vivre. Car le péché est premièrement contre Dieu et contre Dieu seul. Et lorsque notre confession du péché va jusqu'à cette racine-là, alors je vous assure, il y a un profond changement qui s'opère au fond de nous-mêmes. Désormais, nous voulons vivre d'une manière qui plaise à notre Dieu et qui réjouisse son cœur. Alléluia! Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent « Oui, j'ai péché », mais ils ne voient que le mal qui est fait à eux-mêmes. Ou alors même, ils peuvent voir le mal qu'ils font aux autres. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut voir que notre façon de vivre fait du mal au Seigneur lui-même. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux et à tes yeux seuls. L'enfant prodigue, vous vous en souvenez, lorsqu'il est rentré à la maison du Père, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il avait compris quelque chose, l'enfant prodigue. Il a réalisé que son péché, autrement dit sa vie de rébellion, son insoumission à Dieu, son égoïsme, son orgueil, était une vie qui déshonorait Dieu. J'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Alors en abandonnant notre péché, ceci veut dire, Seigneur, maintenant, tu me pardonnes parce que j'abandonne mon péché. Mais maintenant, je veux vivre d'une manière qui te soit agréable. Alléluia. Confesser, abandonner. Et troisièmement, comment être délivré du sentiment de culpabilité? Purification dans le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie nos péchés. Sans effusion de sang, nous dit la Bible, il n'y a pas de rémission des péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia! De tout péché. Soulignez bien tout, tous vos péchés, toutes vos souillures, tout le mal que vous avez pu faire peut être purifié par le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. Oui, il y a une source de purification, de délivrance, mais cette source se trouve dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et si ce soir tu mets ta confiance dans le sang de Jésus, non dans tes larmes, non dans tes souffrances, non dans ta religion, non dans ton argent, non dans tes prières, non dans ta philosophie, mais dans le sang précieux de Jésus, alors le ciel entier va venir à ton secours et venir ôter ta culpabilité, parce que quelqu'un a porté ta culpabilité à ta place, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alléluia! Car il n'y a délivrance de la culpabilité que parce que quelqu'un d'autre a subi ta culpabilité, a été jugé à ta place. C'est ainsi qu'est la justice divine. Dieu nous pardonne. Dieu nous justifie, Dieu nous délivre. Mais pourquoi? Parce que Jésus a été condamné à ta place. Parce que Jésus a été livré à ta place. Il a été livré pour que tu sois délivré. Il a été lié pour que tu sois délié. Le prophète Ésaïe nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oui, la délivrance est possible. Oui, la délivrance est possible. Oui, la purification est possible. Oui, parce que quelqu'un d'autre a payé à ta place. Quelqu'un d'autre a souffert à cause de toi. Quelqu'un d'autre a été livré, abandonné, jugé, condamné à ta place. Et celui-ci, c'était Jésus, l'innocent, le pur, le saint, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu voulais venir à Jésus qui a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à lui, il t'acceptera, il te purifiera et il te délivrera. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen.